ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau.
Merci d'être à l'écoute de Radio Maria. C'est le programme psychologique qui démarre. Voici mon problème, c'est l'émission que nous avons l'habitude de suivre chaque mardi en pareille heure. Je salue Papa André qui est avec nous. Bonjour Papa André.
Bonjour Maman Régine et bonjour à tout le monde.
Nous continuons à exploiter le pardon. Après le pardon de la fois passée, je crois qu'on est revenu un peu plus en arrière dans la rediffusion. Mais aujourd'hui, on va parler du pardon entre parents et enfants.
Oui, justement. Alors, les conflits entre parents et enfants constituent une grande blessure au sein de beaucoup de familles et reste à l'origine de beaucoup d'échecs et de souffrances dans la vie de beaucoup de gens. On trouve des cas de conflits qui durent des longues années parce qu'on ne veut pas de pardon. Du point de vue rationnel, cela paraît absolument choquant et absurde que de refuser de pardonner à un être aussi cher que son propre enfant ou son géniteur. Comment est-ce donc possible qu'on puisse fermer son cœur à son enfant? Comment peut-on accepter de vivre dans l'indifférence ou carrément dans la haine envers celui ou celle par qui on est venu au monde? La complication des rapports entre parents et enfants peut s'expliquer de différentes manières. On peut recourir à des explications d'ordre coutumière, on peut chercher des arguments philosophiques. D'autres encore peuvent avoir suffisamment de raisons spirituelles pour se méfier et haïr des êtres chers. Mais au-delà de tout cela, quel peut être le point de vue de la psychologie? Selon les données de la psychologie, il faut avoir subi une blessure intérieure particulièrement profonde pour haïr et détester son parent ou son enfant, car il s'agit de relations naturelles. Les véritables raisons du refus de relation avec un être dont l'amour est inscrit dans la nature des choses sont très souvent inconscientes et n'ont rien à faire avec celles qui sont souvent évoquées pour justifier la rancune et l'indifférence envers un être aussi cher. Ce phénomène est d'une telle complexité qu'il serait presque impossible d'entrer dans les détails dans le cas de notre causerie. Pour cette raison, nous nous contenterons d'évoquer trois principes psychologiques qui pourraient expliquer les racines de la haine ou de l'indifférence envers son parent ou son enfant. Alors, trois principes. Le premier principe, le voici. Un sevrage psychologique raté peut être à l'origine de tant de tourments. Cela concerne exclusivement les parents et les mères en particulier. En psychologie, on dit d'un parent qu'il aime normalement son enfant lorsque, par ses attitudes intérieures et ses comportements, il permet à l'enfant de sortir de son égocentrisme, appelé le narcissisme, qui est l'une des plus grandes caractéristiques psychologiques de l'enfant. À cause de son immaturité cérébrale, l'enfant est incapable de se distinguer de son environnement. Il vit alors dans un état d'indifférenciation, de symbiose entre lui et l'environnement, lequel environnement est essentiellement représenté par la mère, en tout cas pendant les premières semaines qui suivent la naissance. Donc, le nourrisson s'attribuerait même l'origine des soins ponctuels et réguliers que lui prodigue la mère. Cela va engendrer en lui un phénomène très caractéristique de cet âge, phénomène connu sous le nom de l'illusion de l'omnipotence, qui consiste au fait que l'enfant se croit capable d'assouvir tous ses besoins quand il le veut et comme il le veut. Bref, la disponibilité inconditionnelle de la mère fait que l'enfant se sente tout puissant et au centre du monde. À l'origine, on dit que ce narcissisme est normal et même nécessaire pour l'équilibre et la santé mentale de l'enfant parce qu'il est censé procurer à ce dernier la confiance en soi, l'estime de soi et l'optimisme dans la vie. Mais avec le temps, il va falloir que l'enfant sorte de cet égoïsme, qu'il apprenne à se décentrer et à comprendre petit à petit ressentir la réalité de la vie. Alors, par quel processus l'enfant sort-il de cette illusion de grandeur? Pour sortir de cette illusion de grandeur, deux conditions sont nécessaires. Tout d'abord, c'est la croissance biologique. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et que son cerveau se développe, eh bien, l'enfant comprend progressivement qu'il est différent de la mère et de tout l'environnement. C'est cette croissance psychologique qui permet, entre autres, le sevrage par la mère, lequel sevrage constitue un tournant décisif dans la prise de conscience de soi par l'enfant et sa séparation d'avec la mère. Par le sevrage, donc, la mère oblige l'enfant à une majeure autonomie. C'est cela, donc, la première condition relativement facile. La deuxième condition, plus difficile et compliquée, c'est le sevrage psychologique. Ici, tout repose sur les attitudes intérieures et les comportements de la mère. Celle-ci doit se comporter de telle manière qu'elle rassure l'enfant, que le sécurise sur le plan émotif, affectif, pour que l'enfant soit capable de se séparer psychologiquement de la mère, lentement, lentement mais sûrement. C'est cela, le sevrage psychologique. C'est au niveau de ce processus de séparation d'avec la mère que tout peut se compliquer et basculer dans la pathologie, les blessures intérieures plus ou moins graves. Il s'avère donc que le rôle de la mère est plus que jamais déterminant. Ce rôle consiste essentiellement à permettre à l'enfant d'avoir l'estime de soi, la confiance en soi, d'être mentalement autonome, d'accepter ses propres limites, d'avoir de l'empathie envers les autres ou de la compassion, etc. etc. Pour y parvenir, donc, les soins maternels doivent être d'une qualité et d'une quantité doivent être d'une quantité suffisante et pas excessive ou insuffisante. C'est la raison pour laquelle on dit que la mère doit être suffisamment bonne. Cependant, la mère peut inconsciemment et de bonne foi assumer divers comportements ou attitudes qui peuvent soit précipiter, soit retarder le sevrage psychologique au détriment de l'équilibre de l'enfant. Il peut s'agir de la négligence, de la brutalité, de l'abandon, de l'hyperprotection, du stress vécu par la mère, de l'anxiété éprouvée par la mère, une anxiété chronique, etc. Bref, lorsque le sevrage psychologique a été un échec, on peut assister au développement d'une personnalité qui a énormément de problèmes dans le rapport interpersonnel et donc une personnalité compliquée en ce qui concerne le pardon, la convivialité, la compréhension envers les autres. Ça, c'est le premier principe, donc le sevrage psychologique. Deuxième principe, c'est celui-ci. Les problèmes psychologiques peuvent se transmettre du parent à l'enfant. Concernant la genèse de certains troubles mentaux, on a parfois tendance à souligner l'origine génétique. Ainsi, certains gènes, prédisposeraient à des psychopathologies plus ou moins graves. Les gènes seraient alors un facteur de risque pour le développement d'une personnalité pathologique, comme il en est pour certaines maladies organiques. Ça serait entre autres le cas de l'impulsivité, des troubles anxieux, de l'apathie, etc., etc. Mais ici, nous ne parlons pas de la transmission génétique des troubles mentaux. Nous parlons plutôt des comportements et des attitudes des parents qui seraient à la base d'un déséquilibre psychologique pour les enfants. Des parents donc qu'on appelle des parents psychopathogènes, c'est-à-dire des parents à l'origine des troubles mentaux pour les enfants, de par leur style de vie, leur comportement. Tous les comportements et attitudes négatives d'une mère qui n'est pas suffisamment bonne sont donc psychopathogènes. Une mère anxieuse, par exemple, pourrait élever son enfant de telle sorte que ce dernier développe une personnalité anxieuse. Pareillement pour une mère agressive. Une mère hyperprotectrice et possessive pourrait étouffer son enfant à tel point qu'elle le couvrait comme une poule ses œufs et le laisserait grandir avec son illusion de l'omnipotence. Un enfant gâté, trop protégé, trop aimé et finalement un enfant prédisposé à l'égoïsme, au manque de compassion et à l'exploitation des autres, à l'intolérance et donc difficile dans la vie de pardon. Troisième principe, l'adulte est le fils de l'enfant. Ça veut dire quoi? Eh bien, ce principe signifie que nous sommes aujourd'hui le résultat de tous les conditionnements psychosociaux auxquels nous avons été soumis dans notre enfance. La personne adulte que je suis aujourd'hui est en quelque sorte une émanation de l'enfant que j'ai été. Pour comprendre l'adulte qu'on est actuellement, il faut d'abord comprendre l'enfant qu'on a été. On entend parfois des pensées comme celle-ci. On met au monde un enfant et non pas le cœur de l'enfant. Comme pour dire, je ne suis pas responsable des agissements ou du caractère de mon enfant. On voudrait insinuer par là. Mon enfant est ivrogne alors que je ne lui ai jamais appris à boire. Il ne m'a jamais vu boire. Mon enfant est prostitué alors que je lui ai appris tout le contraire. Mon enfant refuse d'étudier alors qu'il a tout ce qu'il lui faut. Mon enfant ne veut pas de moi alors que j'ai tout fait pour lui. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un peu de vérité dans tout cela et on ne saurait douter de la bonne foi d'un parent. Mais il est tout aussi vrai qu'il n'est pas facile de connaître toute la vérité sur soi-même. Qui connaît exactement combien de blessures intérieures je traîne avec moi depuis ma petite enfance? Comment puis-je m'expliquer le fait que le torchon brûle presque toujours entre mes enfants et moi, alors que pour tous mes voisins, je suis un exemple de vertu? Même si dans ma culture, on dit que les oreilles ne doivent jamais dépasser la tête, est-il possible que mes enfants aient toujours tort et que j'ai toujours raison? Est-il normal que je puisse fermer hermétiquement mon cœur à mon enfant au point de l'abandonner complètement, même s'il a commis une faute gravissime? Ou bien, comment puis-je m'expliquer que j'entretienne la haine ou l'indifférence envers mon père ou ma mère? Tout compte fait, l'hostilité qui peut exister entre parents et enfants au point de se refuser l'un à l'autre, pardon et réconciliation, peut être une conséquence des problèmes psychiques du parent sur la personnalité de l'enfant, et cela sans en être conscient. Étant donné tout cela, comment alors envisager le pardon entre parents et enfants? À notre avis, il est possible d'envisager au moins quatre choses. Premièrement, il faut prendre conscience de ces trois principes évoqués ci-haut, à savoir le sevrage psychologique raté est source de problèmes. Donc, si j'ai des problèmes avec mes enfants, c'est probablement à cause d'un sevrage que j'ai raté quand j'étais. Il faut en prendre conscience. Deuxièmement, les problèmes psychologiques peuvent se transmettre du parent à l'enfant. Mes problèmes psychologiques peuvent se retrouver chez mes parents. Et enfin, l'adulte est le fils de l'enfant. Je me comporte aujourd'hui avec mes enfants comme mon père s'est comporté envers moi, comme ma mère s'est comportée envers moi. Cette prise de conscience aura l'avantage de permettre aux parents comme aux enfants de comprendre que dans un conflit intrafamilial, la victime ou le coupable n'est pas forcément celui que l'on croit. À considérer les choses un peu plus attentivement, on finirait par comprendre qu'il est possible que chacun soit en train de subir le poids de son histoire. Le parent qui est adulte aujourd'hui est bel et bien le fils de l'enfant qu'il a été jadis. Ce faisant, il faut supposer que celui qui vous blesse ou vous a blessé soit lui-même victime d'un passé douloureux et qu'il traîne derrière lui et malgré lui les aléas de son histoire. Votre père, votre mère vous fait souffrir, probablement à cause de la souffrance qu'il a subi quand il était enfant. Dans les agissements peu louables de mes parents, je devrais voir leur enfance plus ou moins blessée. Une enfance qui a donc besoin d'être comprise, estimée, aimée et pourquoi pas pardonnée et revalorisée. En termes clairs, sans le savoir, les parents peuvent eux aussi avoir besoin de la compassion des enfants. Mais à ce niveau, la plus grande question est de savoir comment un enfant peut-il avoir de la compassion alors qu'il n'a pas fait suffisamment l'expérience dans ses relations avec ses parents. D'où la nécessité de se faire aider. Mais le paradoxe des problèmes mentaux est que plus la blessure intérieure est profonde, moins on est porté à le reconnaître et à chercher de l'aide. Voici la deuxième chose à envisager. Il faut accepter la différence d'avec l'autre. Il ne s'agit pas seulement de la différence de caractère ou d'opinion, mais même de l'échelle des valeurs ou des propriétés, des probités morales. Il faut parvenir à accepter que l'autre ait une philosophie de vie différente de la mienne. N'obligez pas votre enfant ou votre parent d'être moralement bon ou vertueux comme vous. Vous pouvez à la rigueur prier pour quelqu'un, lui donner des conseils et tâcher d'être un bon exemple. Mais vous ne pouvez pas lui imposer d'être sain comme vous. La vertu ne s'impose pas. Si votre enfant ou votre père est malhonnête ou avare, ne pensez pas que c'est par votre rancune que vous le rendrez vertueux et généreux. Détrompez-vous. Et si ces faiblesses deviennent pour vous une raison de ne pas vivre vos valeurs telles que le pardon, la tolérance, alors sachez que vous n'êtes pas psychologiquement plus équilibré que lui. Sinon, alors montrez-vous plus grand que ses faiblesses et sortez de la logique de la méfiance, de la rancune et de la violence et faites ce qui est à votre pouvoir pour harmoniser la relation. Troisième chose à envisager, il faut éviter de croire a priori que votre enfant ou votre géniteur est de mauvaise foi. Comme on dit à Lingala, « Ao salama kambonanko ». En psychologie, la mauvaise foi est une notion très discutable. Tout est à comprendre en termes de déséquilibre et de blessures intérieures. Car seule une personne profondément blessée et donc en quelque sorte inconsciente et irresponsable peut délibérément fermer son cœur à un être aussi cher qu'un parent, qu'un fils. Et cela pendant des mois et des années, sans jamais chercher à se réconcilier. Enfin, quatrième chose à envisager, le courage de dire la vérité pour aider l'autre à comprendre son erreur. Ceci concerne particulièrement les enfants. Il y a des enfants, adolescents ou déjà adultes, ça veut dire enfants fils d'eux, qui subissent régulièrement des traumatismes psychologiques et lésés dans leurs droits par les parents. On peut penser par exemple aux enfants privés du soutien matériel des parents pour leur instruction ou leur vie tout simplement. Des jeunes adultes déséquilibrés dans leur vie des jeunes mariés par des comportements intrusifs et tyranniques des parents, les mères en particulier. On va semer la discorde dans le foyer de son fils, de sa fille. Il s'agit ici des parents qui veulent contrôler la vie conjugale de leur fils ou fille au point de semer la discorde dans les nouvelles familles de ces derniers. On peut penser aussi aux enfants régulièrement scandalisés par le manque de loyauté et de respect au sein du couple parental. Donc des parents qui se battent, qui s'insultent au vu des enfants. À tel point que les enfants en arrivent à haïr le parent qu'ils estiment coupable et responsable de la souffrance de l'autre. On a vu des parents, des pères de famille qui ont été pris à partie par leur fils. Pourquoi? Parce que il a trop fait souffrir la mère. Alors, il n'est plus digne d'être notre. Alors, passage à tabac. Voilà. Il est molesté et battu. Donc, on peut penser enfin aux enfants qui ont été victimes de violences sexuelles de la part d'un parent. Donc, traumatisés, ils se sont refermés sur eux-mêmes, vivant dans la haine du parent responsable de leur malheur et jurent de ne jamais pouvoir lui pardonner, ainsi de suite. Alors, pour se guérir en quelque sorte, pour sortir de ces souffrances, de cet emprisonnement d'un passé douloureux, il faut parfois avoir le courage de dire la vérité. Donc l'idéal, c'est de dire la vérité à son père, à sa mère, dans le respect et la dignité. Je vous remercie.
Merci, Papa André. Et Tandala, 081-99-66-098. Clément Moulopo nous propose un chant. Et juste après, nous passerons donc à la partie interactive de cette émission.
Donne-moi, je crie vers toi. Tu m'as aimé malgré mes fautes. Ta grâce est là, tout c'est sans faute. Quand je m'éloigne, tu restes là, patient, fidèle, plein d'émoi. Reçois mon cœur, écoute-moi. Je dépose tout à tes genoux, mes chaînes tombent, je deviens doux. Lave mes loin de tout péché.
Merci pour ces chants. 081-99-66-098. Appelez-nous, écrivez, posez vos questions. Nous parlons de pardon entre parents et enfants. Est-ce que les parents ont l'habitude de demander pardon aux enfants et l'inverse? Est-ce que ça se vit encore? Voilà, vous avez donc la parole, cher auditeur de Radio Maria. 081-99-66-098. On va commencer par ces messages. Bonjour Radio Maria, ainsi que toute l'équipe de cette émission psychologique. Merci à Papa André pour les thèmes. De nos jours, les choses ont vraiment changé. On ne sait pas si c'est l'évolution, mais les enfants sont devenus de plus en plus révoltants. Je ne parle pas de manière générale, car la plupart des enfants ont encore de bonnes manières. Est-ce que cela est toujours dû au fait qu'il y a un sévrage qui a raté quelque part? C'est Francis depuis son bureau.
Merci beaucoup. Aucune hypothèse ne serait à exclure a priori. Tout est possible. Mais il faut noter que de nos jours, l'enfant est confronté à plusieurs sources d'informations et donc on peut faire plusieurs milieux éducatifs. À part la famille, l'école, l'église qui seraient à considérer comme des milieux éducatifs, on va dire classiques et traditionnels, il y a aussi les réseaux sociaux, ce qu'on peut appeler une sorte d'éducation diffuse, mais ce qui fait que l'enfant soit l'enfant actuel vivant dans le milieu urbain soit un peu en quelque sorte, j'ai envie de dire, atypique. En plus de l'éducation reçue des parents, l'enfant, plus ou moins consciemment, peut se comprendre à la lumière de ce qu'il reçoit des réseaux sociaux. Alors, il lit ce qui se passe en France, comment se comportent les ados à Washington et à New York, etc., etc. Il fait, lui, quand il parle avec sa mère, il y a cet inconscient-là de l'enfant ado qu'il a, en quelque sorte, intériorisé, l'enfant de Paris et de Berlin. Ce qui fait que le parent qui a grandi dans un milieu traditionnel pourrait avoir du mal à comprendre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être une proposition. Il faut avoir l'habitude de parler avec les enfants, leur expliquer le bien et les dérives, si on peut parler de dérives, des réseaux sociaux, de la communication sociale, mass-média en quelque sorte. Merci beaucoup.
Anwarit nous écrit depuis Lubumbashi. Selon cet exposé, donc tout le monde qui est blessé doit consulter un psychologue.
Il y a blessure et blessure. Il y a des blessures qui peuvent se guérir comme ça par un effort personnel, par une relation approfondie de ses valeurs. Le croyant part de la religion, tant mieux. Mais il y a des blessures tellement profondes qu'il faut absolument un spécialiste. Ça peut être un psychiatre, ça peut être un assistant social, ça peut être un psychologue en l'occurrence.
Alors, on va écouter maman Christine Bokongo Shanga Shanga.
Bonjour papa André, bonjour maman Régine.
Bonjour maman.
Une émission très intéressante sur tous les thèmes. En suivant attentivement, surtout pour le premier principe, c'est orage psychologique qui est raté. Je me suis dit, il y a une question qui m'est venue en tête. Parce que vous avez parlé même de l'abandon, parfois de la maman qui peut causer tout cela aussi. Alors je dis, une maman qui consciemment, pour des raisons personnelles, dit après naissance, moi je ne peux pas rester, j'abandonne cet enfant-là. Et une maman, une autre, qui juste en donnant naissance à l'enfant, peut-être ben, une semaine après, quelques jours après, elle meurt, laissant un orphelin, une orpheline. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut voir dans les deux cas le même comportement plus tard à l'âge adulte et penser justement au sévrage psychologique qui était raté? Voilà, je voulais avoir des éclaircissements. Mais papa André, j'ai un problème. Un enfant qui est abandonné par une mère qui est peut-être déçue par les relations entre elle et le soi-disant géniteur, et la maman abandonne l'enfant. Mais l'enfant est récupéré par une autre adulte responsable, une tante par exemple, qui s'en occupe, qui donne tout son amour. Mais à un moment donné, à l'âge adulte, cet enfant brutalement se referme, devient une autre personne qu'on ne peut pas reconnaître. Papa André, est-ce qu'il y a moyen un peu de nous parler de ça? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un sévrage aussi qui était raté, qui amène des conséquences, malgré que l'autre personne adulte et la tante dans la famille a géré cet enfant correctement, avec tout l'amour possible, dénonçant pas que c'était pas elle la véritable mère de cet enfant. Merci beaucoup et je vous en prie pour la suite. Merci. C'était maman Christine. Tchanga beaucoup.
Merci, maman.
Merci beaucoup et bonne journée à vous. De très bonnes questions, tellement complexes qu'on va essayer de... Espérons qu'on va dire quelque chose pour le bien de nous tous. Le premier aspect de votre intervention concernant ces deux dames, la première qui abandonne son fils pour des raisons personnelles et l'autre qui laisse son fils parce que elle meurt. Alors que vont devenir ces enfants? Ce qu'il faut dire, c'est que normalement, quand on parle de la mère, on parle de du père, c'est une façon de simplifier les choses. De façon rigoureuse, on parle de la figure maternelle ou de la figure paternelle, figure parentale. Ça veut dire la personne faisant office de la mère ou du père. Dans la plupart des cas, généralement, donc, c'est le père biologique et la mère biologique qui font le père et la mère qui font les parents. Mais il y a des cas où c'est une autre femme qui va s'occuper de l'enfant, entre autres pour des raisons que vous venez d'avancer là, dont l'abandon ou le divorce, la séparation, la mort, etc., etc. Tout ce qui est dit, donc, ça concerne la mère qui fait l'office du parent. Donc, c'est la mère, la femme qui s'occupe de l'enfant, c'est celle-là, la figure maternelle. Et cette figure maternelle-là, a pour rôle principal d'aider l'enfant à se développer de façon harmonieuse. Si la relation est tendue, alors qu'elle soit mère biologique ou mère adoptive, le discours reste le même. Le sevrage psychologique doit commencer normalement autour de 3 mois. C'est à partir de 3 mois de la naissance que on dit que le cerveau commence à atteindre un niveau tel que l'enfant peut déjà commencer à supporter, à accepter l'absence, la séparation d'avec l'enfant. Voilà pourquoi, de façon, on va dire, classique, on accorde 3 mois de congé maternel à la femme qui vient de mettre au monde. Pourquoi ? Parce que se supposait probablement, on a tenu compte de ça. Ce n'est pas seulement pour le repos physique de la mère, mais c'est pour que la mère puisse bien s'occuper de l'enfant pendant ces 3 mois-là qui sont déterminants pour la croissance psycho-affective de l'enfant. C'est un peu ça. Alors, je crois avoir répondu à vos préoccupations, maman. Sinon, vous pouvez toujours revenir.
081-99-66-098. Bonjour, maman Régine. Bonjour, papa André. Merci infiniment pour les enseignements très instructifs. La première question, comment expliquez-vous le comportement d'un jeune homme comme moi, si ce n'est moi-même, qui a vécu avec sa grand-mère dès ses 7 mois et a été élevé par des missionnaires depuis l'âge de 10 ans, donc n'a jamais connu l'éducation des parents et pourtant il a tant mieux que mal su se forger une éducation digne au point de faire de lui un responsable dans le domaine de l'enseignement. Et qui s'est excusé même auprès de ses parents s'il a tort. Il n'a donc jamais connu un quelconque sevrage parental. Peut-on appeler un tel enfant enfant de la rue?
Alors, merci beaucoup pour cette question qui me rappelle un aspect que j'ai oublié de la question de maman Christine de tantôt. L'enfant qui a été adopté après autant d'années, après sa naissance et... Après, l'enfant change, hein, ne reconnaît plus la mère adoptive, devient compliqué tout ça. Ça dépend. Donc, on dit ceci, l'amour parental peut guérir les blessures. Le suivi, l'accompagnement d'un enfant se fait par le fait que... on soumet l'enfant dans un climat affectué, où prédomine l'amour, la bienveillance, la compréhension, la tolérance, etc., etc. Si l'enfant a été blessé dans sa relation avec la mère, avec sa mère biologique, la mère adoptive, en donnant son amour, un amour conditionnel, peut réparer ses blessures. Donc, ce que la mère biologique a failli, ce qu'elle n'a pas donné, la mère biologique n'a pas donné, la mère adoptive peut donner. Donc, celui qui fait l'office de parent, même s'il arrive à 10 ans, si l'amour prédomine, on peut récupérer l'enfant. Donc, je répète, il ne s'agit pas seulement de la mère biologique pour éduquer, pour donner l'amour, de la figure maternelle, la figure paternelle, qu'il s'agisse d'un missionnaire, d'une bonne sœur, je sais pas moi, d'un ami, eh bien, si il est parent en tant que celui qui donne l'affection, l'amour, donc parent au sens psychologique, il peut aider l'enfant à guérir de cette blessure-là qu'il a acquise dans sa relation primitive avec ses parents. C'est un peu ça.
Oui, la question maintenant de cet enfant, est-ce que cet enfant peut être considéré comme enfant de la rue?
Mais un enfant, un enfant, par définition, ce qu'on appelle un enfant de la rue, c'est un enfant qui se retrouve comme ça sans domicile familial. Il vit dans la rue, et enfant de personne, excusez-moi. Donc, des enfants qu'on appelle des enfants en situation de rupture avec la famille. Mais... non, il ne peut pas être considéré comme un enfant de la rue parce qu'il a été élevé par des missionnaires, des amis, des parents, etc. Il a été adopté, il n'a jamais vécu dans la rue, ce n'est pas un enfant de la rue.
C'est Papy Soudi depuis Notre-Dame de la Sagesse qui nous a envoyé cette préoccupation. 081 99 66 098. Nous continuons donc à vous recevoir et recevoir vos différentes préoccupations. On prend ces messages. Bonjour Maman Régine, bonjour Papa André. Le pardon est difficile. Est-ce que c'est possible qu'on naisse avec... un cœur à pardonner ou disponible à pardonner, ou soit le pardon s'apprend. Puisqu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont du mal à demander pardon lorsqu'ils ont tort aux enfants et qui disent un parent ne peut pas se plier devant son enfant.
Merci beaucoup pour cette très bonne question. Le pardon est difficile sur le plan psychologique. D'où vient la difficulté du pardon? Parce que le pardon a affaire à notre moi, notre ego. Lorsqu'on est blessé, on est blessé dans son moi. Donc, on pense, on croit qu'on a porté atteinte à sa dignité. Alors, il faut être d'un équilibre psychologique assez, on va dire, considérable pour comprendre que non, même s'il m'a blessé, il ne m'a pas anéanti. Voilà pourquoi je peux lui pardonner et lui laisser mon cœur ouvert. C'est un peu. Donc, le pardon a affaire à notre sens de dignité, à notre ego. Et si nous sommes faibles psychologiquement, on aura du mal à pardonner, on aura du mal à demander pardon. Les parents ne veulent pas se plier. Pourquoi? Parce que les parents, lui, il a un ego. Mais on a vu des parents qui ont pleuré devant leurs enfants. Ils ont compris qu'ils avaient tellement fait, ils ont fait tellement de mal à leurs enfants. Ils ont abîmé en quelque sorte la vie de leurs enfants par leur comportement irresponsable. Ils ont voulu réparer d'une façon, on va dire, appréciable. Donc, tous les parents ne sont pas pareils. Il y a des parents qui souffrent de cet ego-là. Donc, ce qu'on appelait l'illusion de l'omnipotence. Moi, je suis comme ça et jamais je ne peux pas dire pardon à mon fils, même si je fais des bêtises. Mais demander pardon à son fils ne signifie pas forcément qu'il faut prononcer ce mot-là. Mon fils, je te demande. Ça peut se faire aussi selon la culture et selon le contexte, en réparant et en améliorant sa relation. Donc je peux me faire pardonner en évitant ce qui a causé du mal à mon fils. Donc je me corrige, je m'améliore et je fais comprendre à mon fils que non, j'avais fait fausse route, maintenant je suis là pour repartir sur de nouvelles bases.
Mais c'est ça que nous apprenons aux enfants, qu'on n'arrive pas à sortir ce mot-là de pardon, on fait des contours, mais l'enfant va apprendre ça. Demain après demain, il ne sera pas en mesure de dire pardon à une autre personne. Et l'enfant fera pareil. Qu'est-ce qui empêche à ses parents-là de prononcer le mot pardon, de voilà, il faut passer par peut-être un geste, un cadeau pour se faire pardonner. Nous apprenons aux enfants ce que nous faisons.
Bien sûr. Là, vous êtes dans l'idéal. Mais si vous avez affaire à un parent qui a lui aussi des limites, donc des blessures intérieures, il faut au moins encourager ce geste-là. Ouais. C'est comme dit, excusez-moi, hein, ça, vous pouvez poser cette question au Père Roger, il va vous donner beaucoup d'état. Là où le prophète dit, le Seigneur qui vient, il ne vient pas pour éteindre une mèche qui fume encore. Je n'éteins pas la mèche qui fume, je ne foisse pas le roseau courbé, je ne le coupe pas pour autre. Ça veut dire, aussi longtemps qu'il y a espoir, il faut encourager. Donc, c'est ce parent-là qui comprend qu'il s'est mal comporté, mais à cause de son à cause de ses propres blessures intérieures, il a encore du mal à dire pardon. Au moins, comprenez que, acceptez, appréciez ce geste-là de autocorrection en quelque sorte. Donc, je me résume, c'est une toute autre chose. L'idée, c'est que l'enfant apprenne à dire pardon de la bouche de ses parents. Mais si ses parents sont tellement et aussi blessés, bon, on comprend qu'il se fait pardonner de cette façon. Ouais. C'est un peu ça.
081-99-66-098, appelez-nous, écrivez, posez vos questions. Le thème « Pardon entre parents et enfants ». Papa André est là pour répondre à toutes nos préoccupations. Bonjour Radio Maria, bonjour à toute l'équipe. Merci à Papa et Tandala pour le sujet du jour. Ma question s'adresse aux grands-parents qui parfois entêtent les petits-enfants, leurs petits-enfants, quand on les envoie chez eux. On a comme l'impression que ce que les parents nous apprennent, une fois devenus vieux, ne sont pas capables de les transmettre à leurs petits-enfants. C'est quoi ce qui est à la base, Papa André? Est-ce que c'est psychologique ou comment?
Merci beaucoup. Il y a un facteur culturel qui n'est pas négligeable en psychologie. Donc, culturellement parlant, c'est presque universel, je crois, le fils de son fils est un ami. Vous avez compris? Alors, quand on a un ami, on le prend avec beaucoup de tact, moins de rigueur. Donc, le petit qui est l'enfant qui est chez son grand-père, sa grand-mère, il pense qu'il est un petit roi, un prince, il se permet tout, trop de largesse. Voilà pourquoi certains parents refusent carrément que les enfants soient élevés par
les grands-parents.
C'est ça. Pourquoi? Parce que il va gâter mon fils et pas bon. Mais c'est, il faut comprendre que l'enfant a aussi besoin de cette référence-là parce que, psychologiquement parlant, un grand-père est supposé avoir atteint l'âge qu'on appelle l'âge de l'intégration, du bilan. Il est supposé avoir fait beaucoup de choses. Ça devient un conseiller pour les jeunes. C'est lui qui encourage, qui comprend que on peut se tromper, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer. Alors que le parent qui a 35-40 ans, lui vise encore l'excellence. Vous avez compris? Donc, il faut faire la part des choses. Et le père et le grand-père sont également importants pour l'éducation de l'enfant. À chacun son rôle.
Voilà. Bonjour, Radio Maria. J'ai juste une question à poser à Papa André. Est-ce que c'est conseillé de donner la garde, la garde des enfants à un membre de famille, vu tout ce qui se passe dans ce monde? Les gens n'ont plus l'amour qu'on visait, donc l'amour familial. Chacun veut éduquer ses enfants car l'amour manque de plus en plus.
Ouais, c'est on peut avoir une réaction, c'est une bonne réflexion, mais on peut avoir une réaction mitigée. Il y a des familles qui s'aiment bien, on a des exemples, on peut les citer, des parents qui envoient leurs enfants à d'autres parents. Malheureusement, on peut trouver des familles d'origine, donc le parent qui est laxiste, vous avez compris, envoie un fils, même en vacances, même pour séjour pour les études, à un frère à lui, donc qui est rigoureux. Vous avez compris? L'enfant sort d'un système laxiste, il entre dans un système de rigueur. Alors ça devient compliqué. Quand l'enfant va faire le rapport à son père, le père comprendra que non, on n'a pas aimé mon fils. Vous savez, parce qu'on lui a dit non, ne reste pas avec ton téléphone au-delà de telle heure, il ne faut pas faire ça, eh bien il faut dire ton chapelet, il faut aller à la messe. Ce que son père ne faisait pas. Alors pour l'enfant, ça devient compliqué. Et là, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, c'est vraiment mitiger la réponse à cette réflexion. Ce qui est vrai, c'est que à un certain âge, il serait bon qu'un enfant reste avec ses propres parents et que le parent joue à fond le rôle. Voilà pourquoi, moi, je l'ai toujours dit, ces parents-là, il faut les décourager. Les parents qui disent comme ceci, ils disent à leurs enfants, toi, tu étais tellement têtu, maintenant, tu auras la discipline des sœurs à l'internat. Écoutez. Hein? Accueillir parce qu'on se discipline là-bas sans aucun intérêt, vous avez compris. Il envoie 200 km de la famille et là, l'enfant apprend tout ce qu'il ne pouvait pas apprendre. Vous avez compris, c'est un peu ça.
081-99-66-098, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous avez des questions à poser. Voilà, le numéro est là, 081-99-66-098. Bonjour, Papa André. Excusez-moi pour cette question, je vous ai pris en cours. Comment comprendre le raté du sevrage? Je n'ai pas très bien compris.
Alors, le sevrage psychologique, c'est le fait que l'enfant doit petit à petit à se, se, pardon, apprendre à se séparer psychologiquement de sa mère. Ça veut dire il doit comprendre que il y a une différence entre lui et son environnement. La mère est une personne à part entière, elle ne peut pas être là exclusivement pour lui. Donc, il doit apprendre l'autonomie. C'est ça le sevrage. Et ce sevrage-là est rendu possible par les agissements, les comportements, un style de vie approprié de la part de la maman. Alors, ce sevrage peut rater si la mère ne joue pas à fond son rôle. S'il est trop, on va dire, protectrice, ou s'il est trop négligente, elle est trop négligente, ça peut faire que l'enfant ne subisse pas un bon sevrage. C'est un peu ça.
Bonjour, ma radio. Ma question est une désolation, un constat réel. Peut-on classer les enfants qui sont actuellement poussés à mendier dans les rues de Kinshasa en demandant, mais cela sans gage de politesse. Ces enfants apprennent tout sur la rue. À qui la faute?
Bon, écoutez, à un psychologue, on ne pose pas la question de faute. La faute, c'est amoral. De toute façon, chaque enfant a son histoire. Il y a des enfants qui mendient parce qu'ils n'ont pas d'autre recours. Ils ont été maltraités, malmenés en famille, ils ont été abandonnés, c'est des orphelins, alors les parents d'institution n'ont pas bien joué le rôle et l'enfant apprend quoi? Il doit mendier, parfois il doit voler, elle doit se faire violenter sexuellement pour un pain, vous avez compris. Alors on ne peut pas mettre un jugement de valeur à qui la faute. Nous sommes en train de parler des choses terribles, gravissimes, parce que nous vivons dans une société structurée d'une certaine manière. Il y a des familles qui souffrent, des parents qui assistent, impuissants à la prostitution de leur fils, leur fille est mineure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre source de revenus que cela. Ils mangent tous les deux jours grâce à la prostitution de leur fille. Vous faites quoi? Vous allez les traiter de commander. Bon, écoutez, chaque famille a son histoire, chaque enfant a son histoire. Et en psychologie clinique, on dit qu'on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Même si vous avez deux patients qui souffrent des mêmes troubles mentaux, avec un même dénominateur, chaque patient doit avoir un traitement approprié, spécifique. Pourquoi? Parce que chaque être humain a son histoire. Et l'Église nous dit que toute personne humaine est une histoire sacrée.
On termine par le message de Jean Foy, depuis Sainte-Thérèse. Bonjour Papa André et Maman Régine. Père, après notre naissance, nous étions séparés avec de notre maman. Nous étions éduqués, scolarisés chez nos oncles maternels. Malheureusement, après plusieurs années, je viens chercher papa et je ne l'ai pas vraiment vu. Je n'ai pas vu vraiment l'affection une fois que je suis allée à sa recherche. Mais après sa mort, j'ai essayé d'oublier tout ce qu'il nous a fait et nous avons tout fait pour qu'il soit bien enterré. Et que nous avons mal aussi parce que les oncles avaient refusé de participer aux obsèques.
Toutes nos compassions, madame. C'est un monsieur. Voilà. Excusez-moi, monsieur Jean, tous nos compagnons, c'est des histoires vraies, et il y en a comme ça, des histoires comme, il y en a par centaines, par milliers de gens qui ont vécu de telles histoires. Mais, en peu de mots, je peux vous dire que il n'est pas facile de trouver un parent, un père de famille, qui renonce à son rôle de père de famille de façon, on va dire, de mauvaise foi. Ça doit être une personne qui, lui, elle aussi, a été grièvement blessée dans son enfance, dans sa vie, et il a fait peser sur ses enfants les conséquences de ses blessures intérieures. Parce que la nature est telle que, quand on a un enfant, on est naturellement porté à aimer son enfant. Et si on ne peut pas aimer son enfant, psychologiquement, parce qu'il y a des problèmes très graves. Donc, pardonner à votre père en comprenant que, même s'il est déjà mort, en comprenant que le pauvre, peut-être qu'il a souffert dans son enfance et il s'est comporté comme il s'est comporté. Je suis vraiment désolé de tout ce que vous avez vécu, monsieur, mais quelqu'un disait, si ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Donc, si vous n'êtes pas mort de cet incident-là, alors profitez-en. Prenez conscience que ça vous a agrandi et soyez grand par votre cœur, par votre âme et par la compassion envers les autres, envers vos enfants en particulier. Pour ne pas répéter chez vos enfants ce que votre père vous a fait vivre. C'est un peu ça.
Merci, Papa André. Un dernier mot.
J'aurais voulu mettre un point final à ce chapitre, mais je me demande si prochainement, maman, je ne peux pas y revenir en parlant cette fois-ci de la communication. Comment communiquer adéquatement pour pouvoir bien pardonner, comprendre les autres. Je pense qu'on va y revenir par la communication. Merci. Pour qui voudra appeler, on peut faire, je ne sais pas, poser des questions à Papa André au 082 20 029 18. Merci beaucoup.
Merci, Papa André Tandala. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été aussi nombreux à participer à travers vos questions à cette émission Voici mon problème, qui a porté sur le pardon entre parents et enfants. Nous allons revenir sur l'émission en rediffusion dimanche prochain à 13h, heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à la fréquence maternelle.
Choisir la vie,
choisir ensemble.
Aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde.
Radio Maria, une voix céleste dans votre maison.